La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jimmy Brown, avec Kevin Diaz, avec Wilda Cherchour et notre invité exceptionnel ce soir dans Génération After. On est heureux de l'accueillir, Claudio Cachapa, international brésilien, 6 fois champion de France, vous le savez, vainqueur de la Coupe de la Ligue, hein, après 28 ans d'attente en 2001, on s'en rappelle, et puis une chevauchée telle Beckenbauer. On en parlera tout à l'heure peut-être, hein, le but de la victoire et du titre. Hein. Je crois que c'est ton meilleur souvenir d'ailleurs, carrière.
Un dé? Ah oui.
D'accord. Bon, tu nous diras quels sont les autres parce que c'est intéressant.
Ça nous intéresse.
On va parler d'une petite génération quand même, hein, qui a fait 7 fois champion de France consécutivement. Toi, t'en apprécies. D'ailleurs, beaucoup de messages sur le chat YouTube. Bonjour Claudio, super invité, nous dit Kireto. Claudio, je t'aime, nous dit Tommy Néron. Que de grands souvenirs avec Claudio. Nous aussi, on a un grand souvenir avec toi parce que tu sais que l'After est né un 4 avril 2006. Est-ce que tu connais cette date?
Quand?
4 avril 2006.
4 avril 2006.
C'est pas un bon souvenir, hein?
4 avril.
C'est pas un bon souvenir. Quart de finale
non,
de Ligue des Champions.
T'avais Brassard.
Titulaire.
Oublie, c'est pour ça que j'ai oublié.
Terrible, quart de finale contre le Milan. Ouais, oh, Kevin.
Ouais, non, je suis. C'est vrai que c'est un soir mémorable pour l'After, mais sûrement pas pour toi, parce que le visage que tu viens de faire, là, c'était vraiment un visage de douleur.
18 ans après. Hein.
Ah ouais. Oui.
18 ans après.
Ah, ça, oui, ça fait mal, toujours. Ça fait toujours mal.
Pippo Inzaghi.
Ouais.
Tu dis quoi quand tu le vois, Inzaghi?
Rien du tout.
C'est un cauchemar, ce mec.
Il m'a fait mal.
C'est ta défaite la plus douloureuse, celle-là?
Ah, celle-là et l'Ajax aussi. Oh.
Le PSV.
Le PSV, c'est...
Avec Nilmar, le pénalty de Nilmar.
C'est terrible aussi.
Bon, alors, parlons un peu de...
Moi, j'ai une question.
Vas-y, Kevin.
J'ai une question pour Claudio, toi qui a quand même travaillé dans une galaxie, hein, la galaxie Textor avec... donc
Eagle.
La galaxie Eagle avec Molenbeek notamment, mais surtout Lyon et Botafogo. Je t'avoue que nous qui sommes de l'extérieur, j'ai toujours du mal en tant que romantique dans le foot, même si je travaille aussi dans le foot et je sais que c'est pas toujours romantique, de comprendre comment un président peut avoir 3 clubs, même si là c'est vraiment 3 clubs différents pour le coup, hein, au Brésil, en Europe, et puis un plus petit qui est en Belgique, hein, avec tout le reste.
Il y a un quatrième, Crystal Palace.
Crystal Palace aussi.
Oui.
Il n'est pas majoritaire.
Il n'est pas majoritaire.
Mais là, c'est vraiment.
Mais il n'est pas loin.
Oui.
Il n'est pas loin. Mais voilà. 40%, surtout ces trois-là. Comment toi, qui es de l'intérieur, comment tu vis ça? T'as fait en plus.
La multipropriété, quoi. En
t'as,
fait,
t'as vécu ces trois clubs dans une courte période de temps. Comment tu peux nous dire ton sentiment de l'intérieur, voire même ton sentiment d'ancien joueur? Comment tu te serais vu jouer comme ça au Brian qui passe d'un club à l'autre? C'est particulier quand même.
C'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme j'ai dit, j'étais en vacances. J'étais en vacances au Brésil. Il me restait encore 5 jours de vacances et avant son ponceau qui m'appelle, il dit, il faut que tu ailles à Botafogo. Tout de suite, j'ai pas réalisé. J'ai dit, mais comment ça? Je suis en vacances. Je suis pas.
Tu restes au Brésil, tu bouges pas.
Ah oui, je suis au boulot. Non, John, ils veulent. Toi, tu as donné un coup de main là-bas parce que ils ont besoin. Le coach, il est parti, tout ça. Ok, je fais Botafogo, je fais 4 matchs. Et 15 jours après, j'arrive à Lyon. Je commence à bosser normalement, autant qu'adjoint de Laurent Blanc. 2 jours après, texto qui vient, il me dit, écoute, toi, tu pars à Molenbeek. J'ai dit, mais je viens d'arriver. Je pense que le mieux, c'est de rester ici, de continuer mon aventure ici. Et après, on verra. Il a dit, non, pour moi, c'est toi l'homme de la situation. Il faut que tu ailles. Et moi, j'ai dit, parce que en plus, j'avais envie de coacher, d'être numéro 1. Je me suis dit, c'est l'opportunité que j'attendais. Et tout de suite, j'ai pris mes valises. Et, allez, je suis parti. 3 jours après mon arrivée de Botafogo à Molenbeek. Et je suis arrivé 4 jours avant le début de saison.
Mmh. Début de championnat.
Début de championnat.
4 jours avant.
4 jours avant et contre Bruges. Premier match. Ouais. L'histoire, 0-4 à la maison. C'est normal. Je viens d'arriver, je connaissais personne.
Et puis c'est Bruges en face.
Les joueurs, et en plus c'est Bruges. Alors c'est pas facile parce que John, je sais pas comment il fait. Hein. je sais pas comment il fait, parce que moi j'ai vu John à Lyon, je l'ai rencontré à Rio avec Botafogo, et je l'ai rencontré aussi à Molenbeek en Belgique. Ça veut dire que
ils sont deux. Tu penses pas qu'ils sont deux?
C'est pour, ou même trois, parce que c'est même deux, c'est pas évident. C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Après, il a des gens, des personnes qui lui le faire confiance. Et quand t'as des gens compétents, c'est ça le plus important, qui tu peux faire confiance, ça peut marcher. Mais
ouais, mais c'est parce qu'il a pas mis de la compétence partout. Hein, quand on voit notamment avec Gauthier Gannet à Molenbeek, donc là c'est mieux à Lyon depuis janvier, mais ça doit pas être évident de trouver des gens compétents et de confiance partout.
Ce qui est très difficile déjà dans le foot, et je pense peu importe le niveau, c'est déjà d'arriver à te faire à l'environnement, à la culture d'un club. Mais quand t'as trois clubs, sans même compter Crystal Palace, complètement différents, la ville de Molenbeek n'a absolument rien à voir avec Lyon. On parle même pas de Botafogo et de Rio, qui est dans une autre galaxie footballistique, qu'un seul président, même s'il a une équipe autour de lui. On sait que gérer un club de foot, c'est très compliqué. Et en gérer trois ou trois et demi, dont un en première ligue, en plus, le quatrième. Franchement, j'ai du mal à comprendre comment tu peux arriver à le faire. Maintenant, on voit qu'en tout cas, Lyon, il a su prendre le virage. Et de toute façon, diriger, c'est aussi surtout déléguer et choisir les bonnes personnes pour travailler avec toi. Mais c'est quand même difficile. Et même pour un entraîneur, vivre un joueur, c'est-à-dire, alors t'es là, mais là, tu pars à Molenbeek. Sachant quand même, quand t'arrives dans un nouveau club, je pense qu'un entraîneur comme toi, qui doit être consciencieux, il faut quand même connaître l'effectif, connaître l'environnement, connaître le championnat, connaître les adversaires, connaître la manière de jouer, etc. C'est quand même pas football manager non plus, quoi.
Mais tu vois, il y a une part d'instinct, mais il y a quand même tu dis de bien s'entourer, mais il y a une part d'instinct quand même, parce que finalement, à Lyon, c'est lui qui choisit Pierre Sage. C'est Textor lui-même qui dit à Pierre Sage, tu vas prendre l'équipe, etc. Donc, il y a eu quand même ce truc-là de faire le choix, de dire, voilà, j'ai rencontré Pierre Sage, on a discuté tous les deux, j'ai senti qu'il avait quelque chose.
Je rajoute quand même, excuse-moi, Timmy, je te coupe, parce que, à Lyon, ça s'est bien passé à cette période, mais c'est aussi à cette période que Botafogo avait tant de points d'avance et finalement a perdu le championnat. C'est la même période, c'est le même président.
Oui, donc, les supporters de Botafogo, ils peuvent te dire, à ce moment-là, il était peut-être un peu plus concerné par la situation lyonnaise pour essayer de les faire rebondir. Et peut-être que ça a coûté le titre à Botafogo.
C'est le problème de la mutation.
Est-ce que c'est la vérité?
Il a fini la saison. C'était
non, parce qu'on se rappelle le lendemain, il était venu avec une nouvelle casquette et une nouvelle veste. Le lendemain, on se réveillait, on l'avait vu énervé après
un match au Brésil sur l'arbitrage, etc. Ça, il a été auditionné par des politiques.
Lui, il stigmatise la corruption généralisée.
Mais sur le projet sportif de Botafogo, ça n'avait pas bougé. L'entraîneur avait fini la saison. C'est dur
de dire. Qu'on parle également de Claude Cachapa, l'adjoint. Tu as connu une longue période d'adjoint à l'OL, équipe professionnelle, bien sûr. Tu l'as dit, Bruno Genesio, Silvinho, c'était court, ton compatriote.
Trois mois,
Rudy Garcia, Peter Bosch, je crois que Kevin voudra aussi en parler. Laurent Blanc aussi. Peter Bosch. Voilà. C'est ça, merci. Lequel, si tu dois en sortir, lequel t'as plus marqué dans sa façon de travailler, dans sa personnalité, ses idées de jeu, son charisme aussi, peut-être?
Écoutez, moi, j'ai travaillé avec ces cinq coachs. J'ai appris avec les cinq. Parce que je pense que dans la vie, tous les coachs, ils ont quelque chose à nous donner. Et moi, j'ai pris tous ceux qu'il fallait prendre. Après, entre Bruno, Silvinho, Garcia, Rudy, Peter et Laurent, c'est vrai qu'avec Peter, il y avait quelque chose de différent. Peter, il a amené quelque chose de différent. Parce que quand t'es arrivé, deux jours après ou trois jours après, on a fait une opposition 11 contre 11. Sans aller partir en stage ou quoi. Deux jours après, 11 contre 11 opposition. Mais moi, je me suis dit, ce mec-là, il est fou. Il est fou.
Pourquoi?
On n'est pas habitué à ça. Parce qu'avec Brondon, non. D'abord, on faisait les tests. C'est ça. D'abord, 5-6 jours de mise en place, de travail physique. Avec Laurent, pareil, Rudy et Silvinho. Et lui, non. Lui, deux jours après, opposition.
Il expliquait pourquoi il voulait déjà voir dans l'opposition qui sortait du lot, comment les joueurs se comportaient.
Comment il avait fait l'opposition. Mais c'était sa manière de travailler.
c'était sa manière de travailler. Pour lui,
du jeu, on, l'opposition.
Oui, pour lui, on n'avait pas besoin de passer 7 jours, 10 jours avant d'attaquer pour une opposition.
Ça, c'est trop drôle, c'est très drôle parce que moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai travaillé donc aux Pays-Bas, mais surtout avec un entraîneur portugais en France, Carlos Secretario, qui est un ancien international, qui a joué au Real et à Porto. Et le premier jour, on arrive, on était quand même en National 2, donc les joueurs arrivent avec les chaussures, avec les baskets. Et il me dit, parce que moi je traduisais un peu, il me dit, mais pourquoi ils ont les baskets là? Je dis, bah, c'est la reprise, coach. Non, il n'y a pas de basket avec moi. C'est crampons pour tout le monde et qui prévoit de jouer au foot, hein, et dès le premier jour. Et en fait, c'est des mentalités qui sont différentes. C'est une façon d'entraîner qui est différente.
Oui, bien sûr.
Avec cette fameuse périodisation tactique où les Hollandais l'appellent autrement, mais entre guillemets, où il y a beaucoup de ballons. Et je l'avais dit tout de suite, quand, vous vous rappelez quand Peter Boss est arrivé, ce que j'ai dit attention. Peter Boss, excellent coach. Et il le montre encore cette année.
Pourquoi
excellent
coach. Pourquoi ça n'a pas marché?
Parce que je l'avais dit.
Parce que la mentalité française, elle est différente.
Avec lui, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Tout de suite. Et les joueurs, ils n'étaient pas prêts à ces changements-là. Je pense. Parce que j'étais dedans. Et Peter, c'est quelqu'un que... C'est devenu un ami. Hein. Je ne suis pas en train de le défendre ici. Mais c'est devenu un ami. C'est quelqu'un de très compétent. De très,
c'est
très,
un immense
très gâchis,
c'est un immense gâchis. Alors.
Je pense que nous, sur le terrain, enfin, à travers la télé, ou même quand on allait au stade, nous, on l'avait suivi, à l'Ajax, quand il fait finale de l'Europa League, à Dortmund, au début, c'était très bien, ça s'est un peu, gâté au fur et à mesure, au Bayer Leverkusen notamment. Et quand il arrive, nous, on se dit, purée, c'est un super choix pour l'Olympique Lyonnais, et on va voir du jeu à l'Olympique Lyonnais, et puis une progression, et puis des résultats. Et sur le terrain, on voyait très, très peu de choses. Il y a, par moments, on en a vu, hein, quand ils ont fait, de finale contre West Ham d'Europa League en battant Porto notamment, mais l'année d'après, moi j'allais voir les matchs au stade, c'était très très compliqué. Et là, quand tu vois ce qu'il arrive à faire au PSV, dis-nous un peu, Claudio, c'est quoi qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, parce que toi t'étais dans le staff.
Est-ce que toi t'as un regret en tant qu'adjoint, parce qu'on dit que t'es souvent le relais avec les joueurs, etc., de pas avoir peut-être essayé de forcer leur nature sur sa méthode, de les convaincre qu'il allait dans la bonne direction, tu vois?
Nous, on a tout tenté parce qu'il y avait Rob et moi en tant qu'adjoint et Ludo aussi. Ludovic,
Julie.
Mas.
Non, Julie.
Oui, Julie, Julie. Oui, Julie, bien sûr.
On était trois.
Rob,
Mas.
Ouais, c'est Rob.
On était trois adjoints. OK? Et je pense que c'est ça. Pour moi, il faut pas chercher plusieurs choses. Pour moi, la plus importante, c'est que les joueurs, ils ont pas compris. Ils arrivaient pas. Et moi, j'étais proche des joueurs. Et ils n'arrivaient pas, ils ne comprenaient pas.
Ils te le disaient, ça, toi?
Oui.
On ne comprend pas la méthode?
Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas.
Mais parce qu'ils ne prenaient pas de plaisir, parce que ça ne gagnait pas, parce qu'ils ne progressaient pas.
Ils ne prenaient pas de plaisir.
Ils ne prenaient pas de plaisir avec le.
Non, ils ne prenaient pas.
Parce que c'était trop exigeant, c'était trop exigeant.
Aussi. Non, ce n'est pas que ça. Les joueurs, ils sont habitués.
C'est un choc de culture.
Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est un choc de culture.
Mais Claudio était dans le staff, mais moi, j'y ai passé 7 ans, donc je le connais. Et je l'ai dit ici dans l'after. J'ai dit, attention, très bon choix. Mais est-ce qu'il va arriver à emmener le vestiaire lyonnais, les jeunes lyonnais, avec une formation française qui est très différente de ce qui se fait aux Pays-Bas? Peter Boss, c'est un dogmatique. C'est quelqu'un qui a appris le football, qui sait apprendre le football, mais il faut que tu aies l'esprit ouvert. Pourquoi les Français? Pourquoi les Français, quand on va à l'étranger?
Concrètement, ça veut dire quoi en fait?
C'est simple, je te le dis, quand t'es un Français, tu vas à l'étranger jouer au foot, que ce soit aux Pays-Bas pour Sébastien Haller, que ce soit en Allemagne pour tous les Français qui réussissent en Allemagne, tu dois être ouvert puisque t'es pas chez toi. Mais quand quelqu'un vient chez toi,
tu considères
qu'il
ne
va pas t'apprendre ce que toi tu sais déjà, alors que lui a peut-être d'autres choses. Et quand souvent les entraîneurs apprécient, parce qu'un entraîneur il est plus ouvert à l'apprentissage aussi lui-même, pour progresser lui-même, mais les joueurs qui ont beaucoup d'ego considèrent que tu vas pas leur apprendre. Et à partir du moment que tu changes tout, de la méthode d'entraînement depuis le premier jour jusqu'au troisième où tu fais une opposition, jusqu'à toute la préparation où il y a beaucoup plus de ballons, où tu as l'impression de ne pas avoir assez couru, tu as l'impression de ne pas être prêt, alors qu'au final c'est juste une manière différente de travailler, mais il faut être ouvert au changement.
C'est tout à fait ça. Et aussi, de temps en temps, comme en Angleterre, mercredi il n'y avait pas d'entraînement, c'était off. Ça veut dire qu'on s'entraînait lundi, mardi, des fois le mercredi c'était off. Il n'y avait pas d'entraînement.
Il a des regrets ou pas de son passage à Lyon? Il pense qu'il aurait pu, qu'il aurait dû mieux faire?
À mon avis, je pense que oui, parce qu'il ne voulait pas partir. Il voulait rester, il voulait continuer son aventure ici, parce que Peter, c'est un gagnant. C'est un mec qui est venu, qui est débarqué à Lyon pour gagner des titres. Il a échoué, dans sa tête il a échoué, mais là aujourd'hui je suis très content pour lui, il a prouvé qu'il est un très très bon entraîneur.
Pour toi c'était le meilleur entraîneur que tu as connu en tant qu'adjoint à Lyon?
Dire le meilleur, parce que moi j'ai pris pas mal de choses de Peter, mais j'ai pris pas mal de choses des autres aussi. Ouais. Pour moi c'était quelqu'un qui m'a appris d'autres choses que je connaissais pas.
Je vais retourner ma question alors. C'est pour toi le plus gros gâchis?
À l'OL
en tant qu'entraîneur?
Oui, je pense. Pour moi, il fallait pas le jouer.
Et dans un instant, on va te demander qui est le plus mauvais avec qui t'as bossé.
Non, c'est bon,
Il n'y a pas eu des plus mauvais.
Mais c'est aussi des personnalités différentes. Rudy Garcia est un homme qui est aussi compté à Lyon, qui a amené l'OL aussi en demi-finale de Ligue des Champions, qui est une personnalité au quotidien. On sait que c'est pas toujours facile de suivre Rudy Garcia, quand même, c'est un caractère.
Ah, c'est un caractère. Ah oui, il faut connaître. Mais lui, depuis que je suis revenu à l'OL autant qu'entraîneur, moi, j'ai vécu les meilleurs moments, c'était avec lui. Déjà, en allant en demi-finale de la Ligue des Champions, c'était quelque chose que j'ai hâte, j'ai envie de revivre.